You're racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Régis Nicolas, réalisation signée Daniel Finot. Ce soir, Daniel Martin et Étienne de Montetti se font face à notre affiche aux 5 rues Lima de Mario Vargas Llosa, publié chez Gallimard. Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire en 10-18 grand format et prise de bec de Curzio Malaparte aux belles lettres. Vers 21h20, nous suivrons Xavier Martini dans le petit salon pour parler d'Éric Orsenna, nommé ambassadeur de la lecture par Françoise Nissen. Et puis il y aura encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le spectacle In Spite of Wishing and Wanting de Wim van de Kuybus, mercredi 28 juin à 20h30 à la Villette à Paris. Et nous ouvrons cette émission avec le dernier livre en date du prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, désormais en Pléiade, le candidat malheureux à la présidence de la République péruvienne en 2010, publie un roman qui s'ouvre par un scandale qui éclabousse les plus hautes figures de la société, livré par un journal à sensation dont le rédacteur en chef sera bientôt retrouvé assassiné. Vargas Llosa, qui connaît bien le monde dont il parle, et s'il le fait sur le ton de la comédie de mœurs, dirons-nous, c'est aussi un rappel de l'état, selon lui, de déliquescence avancée de cette société péruvienne du temps du président Fujimori, l'adversaire vainqueur de l'écrivain. Aux 5 rues, Lima, publié chez Gallimard dans une traduction d'Albert Bensoussan et Daniel Le Thor. Daniel Martin, qui n'a pas voulu danser mais qui danse dans sa tête, va commencer à nous parler de ce livre de Mario Vargas Llosa.
Écoutez, je vais être bref parce que j'ai pas grand chose à dire de ce livre. Je trouve que j'ai trouvé ce livre très très mauvais. Je trouve que c'est quelque chose.
C'est pas
chose,
votre choix alors. Donc,
C'est quelque chose qui relève du boulevard. Je lis beaucoup dans la presse qu'on vante la subtilité, la finesse de ce livre. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement lourd. Vargas Llosa donne des interviews que je lis avec intérêt. Effectivement, il dit des choses qui sont plutôt bien. Enfin, par exemple, sa référence à Balzac. Il dit, par exemple, il cite Balzac. Et il a repris cette phrase de Balzac où il dit « Le roman est l'histoire privée des nations ». Bon, c'est très bien. Mais moi, je ne retrouve pas ça du tout dans ce livre. J'ai trouvé quelque chose de très épais. Alors, pour en dire deux mots de ce livre, donc, il y a une... Ça se passe à l'époque de Fujimori. Fujimori avait comme éminence grise quelqu'un qu'on appelait le docteur, qui visiblement était quelqu'un d'absolument terrifiant. Donc, Vargas Llosa, ayant perdu les élections face à Fujimori, s'en venge un peu. Mais qu'il s'en venge aussi loin, c'est-à-dire, 25 ans plus tard?
je sais pas, 20, mais en tout cas, Fujimori est en prison, lui, pendant ce temps, mais... Oui. Il est toujours, non?
L'ancien président arrive en prison à la fin du livre, on peut dire ça, parce que ça appartient à l'histoire.
Oui, oui.
Donc, il y a une histoire de scandale qui atteint des gens qui font partie de la haute bourgeoisie. Ces gens qui appartiennent à la haute bourgeoisie continuent à faire leurs affaires et à gagner de l'argent sans aucun problème, alors qu'on parle toujours d'un climat extrêmement tendu avec des attentats, des enlèvements. C'est des gens qui traversent tout ça, mais sans aucun problème. Mmh. Il y a toute une relation dans cette bourgeoisie de sexe, de choses comme ça. Alors, on ne sait pas ce que ça vient faire là.
Parties fines. C'est assez simple.
Et derrière, on a cette équipe. Moi, c'est, au fond, c'est ce qui m'intéresse le plus. Cette équipe de journalistes qu'on appelle la presse de caniveau, avec deux figures, en particulier une femme qui s'appelle Julieta et dont le nom de plume est Rikiki, je crois.
Oui.
Et
cette femme, de petite taille.
Cette femme va prendre des décisions assez audacieuses, très courageuses. Bon, alors ce personnage m'intéresse, parce que arriver à passer de cette presse à l'autre étage, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais au fond, tout ce qui se raconte dans ce livre, moi, ne m'intéresse absolument pas.
Bon, c'est formidable, parce que quand Daniel Martin dit « j'ai presque rien à dire », je sais qu'on va avoir 3-4 bonnes minutes qui vont être intéressantes, et ce fut le cas, une fois de plus, Daniel. Je reviendrai, je vais commenter chacune de vos interventions, mais on saura pourquoi peut-être à la fin de l'émission. Étienne de Montetti, c'est donc votre choix. J'hésitais parce que je me demandais, en fait, qui avait choisi dans les eaux du Grand Nord, et ça pouvait être l'un comme l'autre, mais ça on en parlera tout à l'heure.
Ah, je ne savais pas qu'il y avait un petit jeu dans l'émission.
Non, pour moi, qui pour a moi choisi c'en quoi. Est un, je me demande des fois.
Et Daniel Martin vient de faire un grand éloge de ce livre, parce qu'il a extrêmement bien lu ce livre, puisqu'effectivement, le personnage central n'est pas... Enrique Cardenas, le célèbre industriel péruvien qui effectivement est pris dans un scandale qui est révélé par un journal à sensation qui s'appelle Striptease. Ça n'est pas sa femme qui a une double vie que je qualifierais de saphique. C'est effectivement Larry Kiki,
c'est un indice.
Personnage qui n'apparaît pas au début du livre, qui apparaît peu et qui devient de fait le pivot de ce livre. Tout va tourner autour d'elle.
Pourquoi ? Parce qu'elle remplace le rédacteur chef.
Parce qu'elle va remplacer le rédacteur en chef. Alors c'est une histoire effectivement avec beaucoup de tiroirs, d'intérêts divers. Il y a cette espèce de mise en parallèle d'un scandale public et sinon d'un scandale d'une affaire privée. Ce sont les mœurs de monsieur Cardenas et les mœurs de sa femme. Mmh. Et puis il y a cette question de la présence de la presse et de la presse à scandale effectivement dans la vie des Cardenas. Ce livre est donc assez, finalement plus complexe que les seules histoires de mœurs qui sont décrites, parce que ça pose quand même les questions du pouvoir dans un pays que moi je connais pas du tout, qui est le Pérou, mais où semble-t-il entre un pouvoir politique, un pouvoir policier aussi, avec ce fameux docteur, je savais pas, j'avoue, je ne sais pas s'il a existé ou pas.
Oui, j'ai lu que c'était une figure bien réelle, hein, de fait. Pour les Péruviens, c'est limpide, pour nous, c'est.
Voilà, pour
c'est
moi, c'était un personnage de fiction.
Mais c'était assez effrayant.
Et puis ces rapports de force entre donc ce pouvoir politique, ce pouvoir policier, le pouvoir économique représenté par cet industriel puissant qui est mis en danger par cette révélation, le pouvoir médiatique donc de ce journal, qui est un journal finalement très fragile, qui cherche à survivre au fond, et le chantage auquel Cardenas est soumis, c'est donnez-nous de l'argent ou nous révélons. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce va se superposer à ce jeu de pouvoir qu'aime bien Vargas Llosa. J'avais vu la justification qu'avait donné le juré Nobel de sa récompense quand il a reçu le Nobel. C'était justement la description de ses pouvoirs et de ses rapports de force entre les divers pouvoirs. J'avais lu une phrase où on est vraiment au cœur de cette problématique. Et surgit cette Rikiki, personnage... Je mets des guillemets, hein, parce que l'image n'est pas complètement cohérente, mais de l'Antigone, c'est-à-dire la gamine qui, tout d'un coup, va s'extirper de cette nasse où tous les rôles sont bien distribués, va faire valoir une loi supérieure à la loi civile, à la loi médiatique, à la loi économique, pour, au fond, faire exploser cette histoire. Je ne pense pas qu'il faille trop aller plus loin pour ne pas complètement vider le livre
de gâcher.
Vider le livre de sa substance. Mais ça devient un personnage qu'on avait à peine aperçu et qui devient central, très intéressant. Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est l'exacte victime de cette histoire, qui n'est absolument pas l'industriel menacé, c'est un brave type qui passait par là, d'une certaine manière, qui est vraiment l'instrument, mais aussi le jouet de tous ses pouvoirs, et qui est véritablement le personnage tragique. Il s'appelle Juan Peinita, et il traverse le livre, il est à peine acteur de tout ça, et pourtant c'est véritablement la victime de toute cette affaire.
Mais vous dites, Étienne de Montetic, que Daniel Martin a fort bien lu le livre, ce qui est toujours le cas, et pour autant il le trouve sans intérêt.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il avait vu que
j'entends bien. Mais comment entendez-vous ce livre, une comédie boulevardière, je vous laisserai préciser dans un instant, Étienne.
Écoutez, je ne peux pas juger les commentaires de Daniel Martin. Je pense que le premier degré a peut-être cet aspect un petit peu racoleur. Je n'ai pas été passionné, par exemple, par les descriptions de parties fines ou de la vie sexuelle. Ça m'a paru très, très banal. En revanche, l'articulation et les rapports de force des divers pouvoirs, ce personnage de Rikiki, la manière dont elle procède pour retourner à la situation, le personnage dont je viens de parler m'intéresse bien davantage que les apparences. Par ailleurs, j'ai l'impression que Daniel a été gêné par l'actualité, vous voyez, le fait que effectivement Fujimori était cité nommément, que le docteur était un de ses vrais, c'est-à-dire le sentiment qu'il collait à une actualité péruvienne,
une sorte de vengeance très froide.
N'étant pas du tout au courant de ce sujet, moi j'avoue que j'ai lu comme un roman.
Une vengeance tardive, c'est-à-dire qu'on reste proche de cette actualité qui date des années, début des années 90, alors qu'il y a tous les éléments pour faire un roman sur ce type de régime dictatorial avec tous les instruments, parce que tout ce qu'on dit là, moi ce que j'appelle la farce boulevardière, en fait on va se rendre compte que tous les personnages, absolument tous, sont manipulés. Alors là aussi, ne divulgâchons pas, c'est assez intéressant à voir, mais je trouve que la vraie matière du livre est là. Par exemple, sur ce personnage de Rikiki, on voit à un moment, on lit des interviews d'elle, c'est quelqu'un qui a une langue qui est très différente, c'est-à-dire c'est une langue franche comme ça, c'est comme ces personnages de cocotte dans les Fedo ou des choses comme ça, c'est-à-dire qui arrivent et qui, avec trois mots, trois éclats de rire, détruisent tout, et là, c'est exactement ce qu'elle fait. Et cette enveloppe derrière où tout est manipulé est très très intéressante, ce personnage tragique est très intéressant, mais alors lui il fait les frais de tout, et au fond quand on le lit, on est obligé de se dire que si Vargas Llosa a perdu, c'est aussi parce que il défendait des idées ultralibérales. Vous vous souvenez que c'est quand même, ça a été un admirateur de Madame Thatcher et compagnie. Donc peut-être aurait-il pas fait mieux que Fujimori. Enfin, il y a cette question qui est posée. Or, Vargas Llosa, on peut pas faire autrement que d'avoir une certaine estime pour lui. Mais je trouve que peut-être il vaut mieux lire ses premiers livres. Enfin, si on veut lire dans la Pléiade, il vaut peut-être mieux s'intéresser au premier tome qu'au deuxième. Enfin, il y a une sorte d'effondrement là que je comprends pas. Moi, je trouve qu'il est passé à côté de son bouquin.
Mais vous venez de vous faire l'éloge effectivement du savoir-faire de l'auteur. Il y a notamment un chapitre aussi où toutes les actions s'interfèrent. Il y a du savoir-faire. J'ai l'impression que le décor, qui n'est pas ce qui m'a effectivement passionné, certains défauts du livre vous ont submergé, le renvoi à la réalité vous a submergé, alors qu'il y a à l'intérieur du livre, de manière souterraine, peut-être plus discrète, des choses tout à fait passionnantes. Et le décor, moi, m'a pas beaucoup intéressé. Je peux à peine en parler, l'histoire de Cárdenas, de sa femme, de l'avocat.
C'est pas intéressant.
Et ça n'est pas intéressant,
mais
ça n'est pas le cœur du livre. Ça a fait écran, alors que moi, je suis passé au travers sans m'y arrêter.
En gros, en lisant ce livre, j'ai souvent pensé à Almodovar, dont j'aime pas du tout le cinéma. Je trouve que ça a ce côté extrêmement lourd, comme ça. Dans toutes les démonstrations, forcé à tout niveau, extrêmement lourd. Et moi, je reste persuadé que derrière, par contre, il y a un très beau sujet. Voilà. Et je crois, voilà, c'est
tout. Il faudra qu'il le réécrive sous un autre mode, un autre régime.
Vous l'aiderez à ça, peut-être.
Non, surtout pas.
Et vous qui êtes des représentants de la presse sérieuse, vous avez quel regard quand même sur cette presse de caniveau dont il est question, Étienne de Montetti, dans ce... Alors, on n'a pas vraiment l'équivalent en France, on peut s'en réjouir. Ouais. C'est plutôt une tradition ou anglo-saxonne, ou en l'occurrence, visiblement latino-américaine. C'est vraiment du caniveau-caniveau. Hein.
Caniveau-caniveau. Oui, effectivement, Dieu merci, on n'a pas ça en France. On a quand même de la presse qui, éventuellement, met la pression sur un certain nombre de gens, à tort ou à raison.
Ça, c'est autre chose.
Heureusement, c'est pas encore complètement sur... sur leurs mœurs, mais la question est posée quand même symboliquement de ces rapports de force entre les pouvoirs. Et c'est intéressant de voir qui est le plus fort du pouvoir médiatique, pouvoir policier, du pouvoir politique, du pouvoir industriel. Il y a ça aussi dans le livre.
Daniel Martin, pour finir là-dessus.
Cette presse, on peut en parler que dans un cadre précis. Enfin, là, dans un cadre dictatorial, on voit très très bien qu'il y a...
Dictatorial déguisé. Rappelons-le quand même, c'était un président élu, hein, Fujimori.
Fujimori, effectivement, est élu, mais très vite dérive dans un régime...
Absolument, autoritaire.
Dictatorial. On parlera de Mussolini. Mussolini, au fond, on peut dire qu'il a fait la même chose. Bon. Et donc, on voit bien qu'il y a une complicité, c'est-à-dire que cette presse dite de caniveau est aussi un outil pour le pouvoir en place, pour détruire, ou menacer, ou faire chanter, ou acheter des gens. Donc, cette question-là, et puis, nous, dans nos sociétés, enfin, c'est cette presse People, tout ce qu'on veut, enfin, quel que soit le nom, on sait très bien, par exemple, que l'histoire des fameuses photos volées ne sont jamais des photos volées. Mais ce sont des, c'est-à-dire que c'est tout,
ça dépend lesquelles.
Il y a assez peu de photos volées.
Il y a des photos de l'ancien président de la République, me semble-t-il. Je n'ai pas souvenir qu'elles aient été volées en France.
Volées ou pas volées?
J'ai pas souvenir qu'elles aient été, c'était des photos préparées.
Ah,
c'était des photos.
Sur son scooter.
Oui, sur son scooter, c'était des photos de paparazzi.
Peut-être.
C'est l'irruption quand même de ces indiscrétions que décrit assez bien Vargas Llosa dans la vie politique, parce qu'on sait les conséquences que ça a eu.
On sait aussi que sur ces fameuses photos volées, quand elles ne sont pas volées, c'est une façon de transmettre une information.
Bien sûr,
président Mitterrand et Mazarine Pinjot, c'était tout à fait volontaire, par exemple. Donc, si vous voulez, il y a toujours une relation très trouble entre, gros, le pouvoir ou les puissants, etc., et ce type de presse.
Absolument. Enfin, là, on parle d'une presse qui, effectivement, n'a pas vraiment cours dans notre pays.
C'est un des sujets, effectivement, du livre.
Bon.
Qui est intéressant.
Alors, ce qui renforce l'admiration d'Étienne de Montetti pour ce livre,
Daniel Martin,
des espères.
Vous n'avez pas cessé de faire l'éloge de ce livre.
Au 5 rue Lima, c'est le titre de ce livre de Mario Vargas Llosa qui est paru chez Gallimard dans une traduction d'Albert Bensoussan et Daniel Le Thor.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Ian McGuire et Curzio Malaparte, mais tout d'abord, Xavier Martinet nous attend dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, écriture, livre et pouvoir, c'est vraiment aussi le cœur de ce petit salon, puisque nous allons parler, vous allez d'abord nous parler d'Éric Orsenna.
C'est ça, on va parler de la lecture aussi, puisque l'académicien et romancier Éric Orsenna, auteur qui circule avec succès, il faut le dire, entre le roman familial et puis les grands noms de l'histoire, grand signataire de pétition également, soutien d'Emmanuel Macron, dès le premier meeting, disait-il, de juillet 2016, a été choisi pour cette mission donc du ministère de la Culture, une priorité de Françoise Nyssen. Il sera donc l'ambassadeur de la lecture, un titre officiel pour une mission qui consistera à porter le plan d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques qui était prévu par La République En Marche. Alors du côté du ministère, c'est bien la réalisation d'un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, disait Françoise Nyssen, qui répond à un double impératif, d'abord l'alphabétisation à la fin du primaire, et puis surtout une conjoncture préoccupante, puisqu'en apparence la situation est bonne, il y a 40% de fréquentation pour les plus de 15 ans, contre 25% en 1997, une couverture qui paraît assez dense aussi, hein. 16 000 bibliothèques et relais de lecture, disait Françoise Nyssen, mais c'est un petit peu une situation en demi-teinte, puisque non seulement 20% de la population n'y a pas accès dans de bonnes conditions, il faudra voir ce que ça veut dire, et puis surtout le nombre de jeunes en âge d'étudier et d'aller en bibliothèque a bondi ces dernières années, ils étaient 30 000 en plus reçus au bac en 2015, encore en hausse l'année dernière, avec à terme un possible engorgement, comme c'est déjà le cas à l'université l'université, expliquait le magazine littéraire. À Paris, d'ailleurs, continue le magazine, seule la BNF, la BPI, donc à Beaubourg, et quelques bibliothèques municipales sont ouvertes le dimanche, donnant lieu à des files d'attente interminables, sans assurance d'avoir une place assise. Alors le choix d'Éric Orsenna, de ce point de vue-là, est-il pertinent? C'est vrai qu'Éric Orsenna a déjà un passé politique. Il a été conseiller économique au ministère de la Coopération en 81, plume de François Mitterrand, membre de cette fameuse commission Attali pour la libéralisation en 2008. Et puis, il a aussi un solide ancrage populaire parmi les lecteurs. Prix Goncourt des lycéens en 98. Il est toujours très lu en bibliothèque. Je regardais le site du ministère. 13e au palmarès officiel des emprunts en 2015. Il était 15e en 2016 pour le même livre. Alors concrètement, son rôle d'ambassadeur sera assisté d'un responsable du ministère. Il fera le tour des DRAC, vous savez, ces directions régionales de l'action culturelle, pour tâter le terrain. Apparemment, ce sera ce qu'on appelle la méthode Macron. Il y aura la DRAC, donc, mais aussi bibliothécaires, l'ensemble des agents publics concernés, les organisations syndicales, les citoyens, les collectivités et les élus, dit le communiqué du ministère dans cette formulation si caractéristique. Cependant, il faut aller le plus vite possible, dit Françoise Nyssen. Il n'est pas normal que les bibliothèques soient fermées quand les gens ont le temps d'y aller, principaux horaires visés, donc le dimanche, mais aussi les jours ouvrables après 17h, ce qui fait dire à Actualité que cette mission ne sera pas une sinécure. Je termine en précisant qu'elle n'intervient tout de même pas ex nihilo, puisque le terrain a été préparé depuis un an environ, en partenariat avec l'Association des bibliothécaires, qui tient son congrès cette semaine. Pour la première fois d'ailleurs depuis Aurélie Filippetti en 2014, une ministre de la Culture est venue à ce congrès. L'ABF donc avait interpellé le président deux jours après son élection. Côté financement, simplement, on compte beaucoup sur la DGD, la délégation, la dotation générale, je vous retrouverai le sigle complet de décentralisation du ministère de la Culture. C'est 80 à 85 millions d'euros, mais sa durée limitée de 3 ans inquiète les collectivités locales. Côté consensus, ce sera difficile aussi, puisque la CGT BNF, en tout cas, à Paris, a déjà indiqué qu'elle ne participerait pas à ce débat prévu par le gouvernement. Quand on voit le nombre de suppressions de postes que l'on a subies, il faudrait beaucoup plus d'effectifs, ou alors faire travailler plus les agences, ce qui n'est pas facile à faire accepter au personnel, disait un responsable dans Actualité. Alors, faut-il ouvrir les bibliothèques? Le débat a déjà été fait, on pourra y revenir avec quelques chiffres, mais pour vous, messieurs, quels effets escomptés d'abord d'un tel plan, et puis quelles seraient éventuellement vos préconisations?
Ah, bah alors, ils vont être... ministre à la place du ministre, on reparlera dans un instant de Françoise Nyssen d'ailleurs. Peut-être préciser que avant d'être Goncourt des lycéens, il était Goncourt tout court. Éric Orsenna, l'exposition coloniale, ça ne nous rajeunit pas, c'est une trentaine d'années peut-être maintenant.
1987 ou 88.
Ah bah alors 30, oui, peut-être bien, oui. Bah, 30 ou 29 ou 30, alors on est assez juste. Et DRAC, à moins qu'ils aient changé, c'est pas l'action culturelle mais les affaires culturelles.
Les affaires.
Et c'est important les mots évidemment en matière de culture. Les bibliothèques, alors je prolonge la question. Étienne Montetti.
L'analyse est assez bonne. C'est vrai que les bibliothèques sont des lieux qui sont fermés quand on peut y aller. On l'a tous observé voulant aller consulter un livre. Après 17 ou 18 heures, quand on sort soi-même de ses activités, ou le week-end quand on a du temps, ces lieux ne sont pas ouverts. J'ai noté avec intérêt que dès qu'il s'agit de réformer, il y a tout de suite une corporation qui est autour de la table, qui parle moyen et qui parle réduction d'effectifs. Donc je souhaite bon courage à Éric Orsenna. Il a énormément de qualités, c'est un énergique, un enthousiaste, mais c'est aussi quelqu'un qui semble se lasser assez vite puisqu'il fait mille choses. Et c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime faire du bateau, qui aime s'intéresser à un sujet comme le papier, l'eau, récemment les moustiques. Il publie à la rentrée un livre sur La Fontaine, après avoir fait quelque chose sur l'autre. Bref, c'est une sorte de touche-à-tout.
Ouais.
Je ne sais pas jusqu'où va aller son degré de patience pour multiplier les réunions pour régler un problème qui est certainement extrêmement complexe. Mais on lui souhaite beaucoup de courage parce que tout ça est pavé de bonnes intentions.
Oui, après ce sera toujours la question des moyens qui in fine primera. Hein. Si on veut ouvrir les bibliothèques plus longtemps, il faut mettre des moyens. Daniel Martin.
Je crois que la question des moyens effectivement est essentielle parce qu'ouvrir le dimanche et ouvrir en soirée, ça veut dire à peu près doubler le personnel. Donc doubler le personnel, tout de suite on voit le coup. Il y a des expériences expériences qui sont menées en France. Certaines bibliothèques sont ouvertes, soit des bibliothèques universitaires, soit des bibliothèques grand public. Moi, je prends les exemples que je connais. L'excellente bibliothèque médiathèque de Moulins, depuis qu'elle a été refaite et rouverte, a une pratique d'ouverture le dimanche après-midi, une fois par mois. Et là, on arrive à d'autres questions qui sont effectivement comment s'inscrire à la bibliothèque dans la vie des gens, qui a accès à la bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque ouverte, il ne suffit pas d'ouvrir la bibliothèque pour que le public soit là, puisque ça n'est pas dans les habitudes. Donc ça veut dire que la bibliothèque doit accentuer son travail de préparation, d'animation, de formation, ce qui est vraiment le travail de base des bibliothèques qui sont maintenant beaucoup plus ouvertes, bibliothèques ou médiathèques, beaucoup plus ouvertes qu'avant. On peut aller à la bibliothèque pour emprunter un livre, mais aussi on peut aller pour lire un journal, on peut aller, les collégiens y vont pour travailler, les hommes d'affaires y vont parce qu'ils ont un ordinateur à disposition, c'est vraiment un lieu qui est multifonction. Mais de là à ouvrir plus largement, il faut convaincre un public d'arriver. En gros, les bibliothèques ouvrent, alors peut-être que je me trompe, mais je crois à peu près être sûr de mes chiffres, une vingtaine d'heures par semaine, ce qui est quand même pas énorme.
Mais alors, j'avais une trentaine.
Et les plus importantes 30, ouvrent jusqu'à 30, 35.
D'accord.
Mais de toute façon, c'est moins de 40 heures. Et effectivement, l'idée d'ouvrir au moment où le public est disponible, c'est-à-dire en dehors des heures de bureau, le soir, etc., moi je trouve que c'est une idée formidable. Est-ce que ça appartient aux habitudes et aux pratiques françaises? Je ne sais pas. Mais
ça ne peut pas y appartenir tant que la possibilité n'existe pas.
Basons-nous sur les expériences en cours. Regardons ce qui s'est passé. Comment effectivement tout ça se développe. C'est vrai que, je trouve que globalement, on a toujours en tête le modèle anglo-saxon, le modèle nordique sur ces choses-là sans le connaître vraiment. On rêve un peu de ça. C'est vrai que les médiathèques, dans leur fonctionnement, évoluent considérablement tout de suite et il se fait un travail absolument remarquable. Mais si vous parlez à des spécialistes qui fréquentent les bibliothèques, c'est quand même en gros une clientèle bourgeoise de centre-ville. Et il y a encore un travail énorme de conquête de public à faire. Donc ça remue, cette amplitude horaire remue toutes ces questions qui sont des questions, semble-t-il, extrêmement passionnantes.
Étienne ?
Mais peut-être qu'il faut réfléchir, mais j'imagine que le ministre et l'académicien y auront songé aussi, à observer les horaires d'affluence. Est-ce que le matin, par exemple, on va en bibliothèque ? Peut-être pour certains étudiants, peut-être pas. Et peut-être qu'au fond, c'est à partir de 14h que tout se passe, mais pas jusqu'à 17h dans ces cas-là, peut-être jusqu'à 20h, effectivement. Je n'ai pas à me souvenir, mais je suis un vieux monsieur maintenant, d'avoir été tellement en bibliothèque le matin. C'est vrai que c'est des pratiques...
Mais ça, c'est parce que vous étiez fait tard.
Voilà, peut-être que je me levais tard à ce moment-là, mais voilà, on se mettait au travail. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous avez raison, Daniel Martin, de le rappeler, qui va lire la presse, et peut-être ça, c'est une habitude du matin, c'est vrai.
À suivre, Xavier Martin.
Oui, je voulais donner quelques petites informations pour permettre d'évaluer la faisabilité de ce plan. Donc, il y a déjà eu un rapport qui a été fait en 2015 à l'époque par une sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert. Et toute la question à l'époque déjà, et ça reste un travail à faire, c'est d'évaluer effectivement l'impact qu'ils appellent social des bibliothèques, donc dans son environnement territorial, en lien avec les habitudes des populations, finement. Et puis à savoir si on parle aussi effectivement de bibliothèques ou de points de lecture. Alors, j'ai pas réussi à savoir comment ça se présentait, mais c'est des établissements évidemment moins gros que des bibliothèques. Et si on compte ces points de lecture, on a plus que 7100 bibliothèques pour quadriller le territoire, avec effectivement, et c'était déjà pointé à l'époque, des questions de rapport entre bibliothèques et densité de population, notamment en milieu ruraux et en territoire périurbain toujours. Pour la question, juste, je termine là-dessus, du déficit de fréquentation. Là, c'est une question qui m'a semblé n'est pas réglée, c'est de savoir si ce déficit, en tout cas apparent, ou en tout cas par rapport à ce qu'on attend, c'est un déficit qui vient de la population en général ou qui est dû aux étudiants, effectivement, puisque c'est aussi un argument des personnes qui voudraient ne pas ouvrir autant les bibliothèques municipales que de renvoyer aux bibliothèques universitaires, finalement, cette question de l'accueil des élèves. Hein, pour eux, ça se résume à ça.
Alors, si Sylvie Robert a fait un rapport, ce qui est le cas, je conseille fortement au ministre et à l'académicien de s'y reporter, parce que c'est une femme qui aime immensément l'art et la culture. Donc, il y a un rapport qui existe. existe, autant s'en servir. Oui, Martin.
Cette question est débattue dans l'espace public à peu près, je crois, depuis 2010. Il y a déjà des préconisations et des mesures qui avaient été prises sous la précédente présidence. Mais sur le milieu rural, je rappelle quand même le travail absolument remarquable que font les BDP, bibliothèques départementales de prêt, qui effectivement ne sont pas des grosses institutions, mais qui couvrent des zones importantes et toute une population importante. Et l'autre chose, me semble-t-il, par rapport à la bibliothèque qui est important, c'est qu'on parle généralement du livre papier. Les bibliothèques, c'est le lieu, effectivement, où on peut avoir accès aussi, parce qu'il y a une fonction pédagogique dans la bibliothèque, où on peut avoir accès à d'autres supports que le papier. Alors, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant ? Toujours est-il que ça fait partie de la mission d'une bibliothèque. Et je pense aux étudiants, puisqu'on sait que la plupart des textes scientifiques maintenant sont plutôt en ligne que consultés en ligne que sur papier. Ça fait partie de nombreuses autres questions qui s'ajoutent à l'ouverture du dimanche.
Et c'est vrai que c'était un des axes de travail du ministère. Il y a 20 bibliothèques qui sont labellisées bibliothèques numériques de référence.
Bon, du coup, on parlera pas non plus ce soir de Françoise Nyssen. On n'a toujours pas réagi, en fait, ici, à cette nomination et confirmation de Pio Misson de la Culture, mais nous avons, j'espère pour elle, largement le temps de le faire. Le deuxième livre à notre affiche ce soir, c'est celui d'un nouveau venu en France, puisque dans les eaux du Grand Nord, et certes le troisième roman de Ian McGuire, mais le premier traduit dans notre pays, il est publié chez 10-18 Grand Format, traduction Laurent Burry. Sélectionné pour le Man Book Prize, il a figuré dans la liste des 10 meilleurs livres de 2016 pour le New York Times, un roman qui nous oblige à monter à bord d'un baleinier. Nous sommes au milieu du 19e siècle, un baleinier qui va sillonner la mer de Baffin, qui, comme vous le saviez avant d'ouvrir le livre, Daniel, se trouve à l'ouest du Groenland. À bord de ce bateau, Patrick Summer, dont on va découvrir qu'il était chirurgien dans l'armée britannique et qu'il a eu un épisode compliqué dont on devinera peu à peu les circonstances précises alors qu'il travaillait en Inde, dans les Indes, fallait-il dire à l'époque. Donc il cherche visiblement, mais on n'en est pas tout à fait sûr, à se faire un peu oublier. À bord également, Henry Drax, une vraie grande figure du mal.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord.
Pendant que nous écoutions Nina Simone, nous dissertions aussi sur les qualités que nous jugeons assez pauvres, finalement, du titre français de ce roman de Ian McGuire, Dans les eaux du Grand Nord. Le titre original, Daniel Martin nous l'a révélé, est
The North Water.
Ouais, quel bel accent. Donc je déduis habilement que c'est plutôt quand même le choix de Daniel Martin, mais c'est donc Étienne de Montetti qui va commencer à paraître ce livre de Ian McGuire, nouveau venu pour nous, disais-je.
entièrement nouveau venu. C'est vrai que j'ai ouvert ce livre sans jamais avoir entendu parler de cet écrivain et de savoir s'ils étaient un écrivain du milieu du 19e siècle, des années 20 ou d'aujourd'hui. C'est l'exact opposé de ce point de vue-là de Vargas Llosa qui arrive effectivement avec en bandoulière son œuvre et son prix Nobel. Et c'est toujours intéressant de se plonger comme ça sans aucun repère dans un simple texte. Et je reconnais que j'ai été pris dans cette histoire après avoir passé le cap de ce titre qui ne dit pas très grand-chose. Parce que page après page, j'ai découvert que ça pouvait être autre chose que ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire le pastiche. On a tous des grands souvenirs de littérature maritime, de Stevenson, de Melville évidemment, même assez récemment de Patrick O'Brien et de Simon Leys. Et on s'embarque dans une véritable histoire qui aurait pu effectivement être écrite il y a un siècle et demi. Et comme dans Melville, comme dans beaucoup de livres d'aventure, derrière l'histoire de cet homme en quête de rédemption, du docteur Sumner, effectivement on cherche cette quête dans le Grand Nord, dans cet univers blanc, dans cet univers de brume, tellement blanc que même les ours le sont. Et on va suivre ce bateau qui est une sorte de concentré de l'humanité, plutôt dans son versant évidemment sombre. Les marins ne sont pas des enfants de cœur. Un drame, un viol suivi d'un véritable crime, d'un assassinat survient à bord et le médecin va s'ériger au fond en quelque sorte en juge. Bref, ça devient une sorte de métaphore de la condition humaine. Ça fonctionne. J'ai lu ce livre de bout en bout, passionné effectivement par le personnage de Sumner, et puis quelqu'un qui prend le relais, c'est effectivement le personnage d'Henry Drax, le mâle, et puis la figure de l'ours blanc, qui est une sorte de pendant évidemment de la baleine blanche, un animal métaphorique.
Et qui a un côté très pratique qu'on ne dévoilera pas.
Très pratique aussi. Tout ça fonctionne. L'auteur est un écrivain qui sait raconter une histoire, qui sait y mettre les bons ingrédients au bon moment. On débarque sur une terre. On y fait des rencontres avec des personnages assez singuliers. On va songer que c'est un livre écrit en 2015, en 2017, que sais-je. Mais vraiment un livre archi contemporain. On se dit que que l'imaginaire des écrivains, notamment celui-ci, est vraiment très très singulier. Et puis on referme le livre en se disant qu'on a rencontré des personnages forts, on s'est posé des questions, on s'est aventuré, on s'est un peu perdu, on s'est posé des questions. Bref, c'est un livre pour lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à lire.
Bien, Daniel Martin.
Oui, moi également, je trouve ce livre absolument formidable. Je trouve qu'on a ce plaisir, de redevenir un peu adolescent, c'est-à-dire de se retrouver à cette époque-là, ce qui est toujours un plaisir, un grand plaisir.
Alors, vous n'étiez pas adolescent en 1859, hein, je précise.
Non, mais sur ce type de lecture, on a lu ces choses-là, oui, effectivement. Et alors, par contre, je crois qu'il y a juste une petite chose qu'il faut dire, c'est que le premier tiers commence tout doucement. Il est plutôt documentaire. C'est un passage qui est extrêmement violent, qui doit faire frémir énormément de gens tout de suite, parce qu'on assiste quand même à des massacres de phoques sur la banquise, à des chasses à la baleine qui sont assez terribles. Tout ça est extrêmement bien documenté. L'histoire, cet affrontement entre le bien et le mal commence vraiment après la fin du premier tiers. C'est-à-dire que les choses se mettent en place. C'est-à-dire que, effectivement, parce que quand on parle de viol, c'est effectivement des viols qui sont perpétrés sur des mousses. Et pour les gens qui connaissent un peu les pratiques de la marine, on sait que c'était une des destinées des mousses, si je puis dire.
Très jeune garçon.
Très jeune garçon. Donc on aborde ces questions-là. Et c'est à partir du moment où on découvre un cadavre que vraiment les choses commencent. Et il y a cet affrontement. Et cet affrontement est très très intéressant parce que le bien est donc incarné par ce médecin qui a un dossier qui est quand même un peu chargé, qui est un petit bonhomme gringalé, enfin qui est présenté comme trois fois rien. Et ce type va absolument se grandir totalement dans l'épreuve. Et il a affaire en face de lui à cette espèce de brute épaisse qui est vraiment indestructible. Enfin, qui est le méchant intégral, comme on en voit, je ne sais pas, au cinéma, par exemple.
On a parlé d'Ernest Borgnine dans L'Empereur du Grand Nord de Robert Aldrich. C'est le hasard des titres, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à ce personnage. personnage de méchant absolu.
Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que cette histoire est dans un contexte particulier, milieu du 19e siècle, c'est-à-dire que là, on chasse encore des baleines, donc c'est pour la graisse, c'est pour l'huile, c'est pour l'éclairage, et le pétrole arrive.
Il en parle aussi.
Oui, et le pétrole arrive. C'est-à-dire que les hommes d'argent, ceux qui affrètent ces bateaux, commencent à regarder ailleurs. C'est-à-dire que c'est un monde qui se termine. Et tout ça, je trouve, est imbriqué de manière remarquable. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup sur l'époque. C'est intéressant de remettre des dates sur les choses comme ça. Et cette histoire, moi, je jusqu'à la fin, je la trouve captivante. Et je trouve que le survivant des deux, je vais pas dire lequel gagne le combat... il y a une dernière réplique qui est absolument magnifique. Il y a un parcours. Moi, j'ai trouvé ce livre absolument captivant.
Étienne Montetti.
Oui, il y a beaucoup de trouvailles dans ce livre. Le fait que ce soit un médecin, par exemple, qui soit un des héros. Et effectivement, il y a un réalisme dans les descriptions de massacres, effectivement, d'animaux, mais la description aussi des crimes perpétrés à bord, où le médecin est obligé d'ausculter d'abord le malheureux violé, et puis après le cadavre du malheureux violé. Et effectivement, il y a un réalisme très très fort. Et puis, ce médecin, qui effectivement explique quelque chose, et il est donc pas blanc-bleu. Le bien ne survient pas par un héros
immaculé,
blond et souriant. Le bien vient de quelqu'un qui a sa propre histoire.
Qui paye lui-même une faute.
Et dont on croit que c'est la première et la seule faute du livre. Enfin, que c'est la faute originelle du livre. Et en réalité, on se rend compte que la lumière vient d'un médecin qui disait qu'il ne souhaitait plus qu'une chose, c'était s'occuper des corps. Et en réalité, il s'occupe de quoi ? Il s'occupe de la justice. Ce qui est tout à fait différent. Donc, on quitte très vite le domaine de la chirurgie ou de la biologie pour avoir un personnage symbolique, au fond. Et puis, un personnage beaucoup plus complexe qu'aurait pu être le simple combat du bien contre le mal. C'est vrai que c'est un auteur qui a beaucoup d'imagination, qui se sert des êtres, des paysages, et jusqu'aux animaux, de ces animaux qu'on tue, qu'on dépaisse. Il s'en sert pour tisser un roman qui est d'abord absolument captivant.
Oui, parce que c'est quand même pas si fréquent de nos jours d'avoir affaire à un écrivain comme ça qui embrasse à ce point, qui a une ambition quand même folle avec ce livre. À vous écouter, je pense que les auditrices et les auditeurs l'ont bien compris. Il se sert de tout et c'est extrêmement ambitieux comme texte. Et en même temps, ça se lit d'une façon... il y a le côté thriller, il y a quelque chose de très captivant dans la lecture, ça embrasse des questions immenses.
Quand vous dites ambitieux...
Ambitieux, au sens le plus noble de ce terme.
C'est un terme qui peut impressionner, alors que c'est un livre dans lequel on se laisse aller.
Et c'est ça qui est fort, c'est absolument captivant et ça se lit très très vite.
Et quand vous parliez de la référence 19e, effectivement, on a plus l'habitude de lire dans la catégorie 19e, il y a quand même quelques grands textes. Bon, les textes de Jack London, j'ai noté ça, je trouve que c'est intéressant. Les textes de Jack London sur la mer sont regroupés en omnibus, aventure en mer. On arrive vers l'été, on a envie de lire du classique. Je trouve que c'est bien aussi.
Très bien.
Et en même temps, je pense qu'en lisant des classiques, on se rend compte que ce livre n'est pas une copie, une imitation. C'est un livre qui est autonome. Et ça, c'est bien. Et je repensais à un autre livre qui s'appelle La croisière du cachalot d'un nommé Frank Bullen. Il est édité chez Payot toujours. C'est un souvenir absolument extraordinaire. Alors là, on est sur des histoires où effectivement, il y a toujours le livre qui a été écrit avant Moby Dick, etc., etc. On est un peu dans ces histoires-là. Mais n'empêche que c'est un livre qui est absolument passionnant.
Étienne, d'autres conseils de lecture,
Marie-Claire. Comme conseil de lecture, 2 ans sur le guerrier d'avant de Richard Dana, préfacé et introduit en France, je crois, par Simon Leys, qui est un prodigieux roman d'aventure.
Extraordinaire.
Mais il faut le dire, le livre de McGuire n'est absolument pas un pastiche.
Du tout.
Il ne singe pas, il a son univers en propre. Et une fois qu'on a passé les quelques éléments de départ, on a quelque chose de très singulier, ne serait-ce que cette destination et la métaphore du blanc tout au long du livre, que ce soit la banquise, l'ours ou l'âme des hommes.
Dans les eaux du Grand Nord, vous avez compris qu'il faut vous procurer ce livre de toute urgence, un livre de Ian McGuire, publié en 2018 dans la collection Grand Format, et dans une traduction de Laurent Burry.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute littéraire, c'est un recueil inédit en France des Prises de Bec, titre des chroniques que Curzio Malaparte écrivait dans l'hebdomadaire Tempo entre 1953 et 1957, première édition française. Donc le choix des textes, la traduction, la postface et les notes sont de Stéphanie Laporte, avec qui je n'ai aucun lien de parenté, je le précise. Le romancier, auteur de Caput ou de La Peau, deviendra l'un des observateurs visiblement les plus fins et sans langue de bois, en tout cas pour ce qui concerne les autres, de ce temps de guerre froide et de promesses européennes, un écrivain journaliste toujours engagé, que les Italiens visiblement lisaient avec beaucoup de passion à l'époque. Il en met lui aussi beaucoup dans ses chroniques. C'est d'ailleurs Pasolini qui prendra la relève de cette chronique après la mort de Malaparte. Comme il est plaisant de lire des méchancetés, c'est quand même un des bonheurs de ces Prises de Bec, mais c'est vraiment pas le seul, de Curzio Malaparte. Moi, j'avoue que j'ignorais même qu'il avait tenu ses chroniques hebdomadaires. Donc, cette réunion paraît aux belles lettres. Étienne de Montetti, pour commencer, sur ces chroniques de Curzio Malaparte.
C'est vrai que c'est une découverte. On avait connu, et aimé ou pas, La Peau, Caput, connaissait plus ou moins ce personnage qu'on a du mal à situer dans la littérature, ses engagements qui sont confus, qui sont changeants, dont Prêt. On sent qu'ils sont sulfureux, mais sans qu'ils puissent jamais être véritablement coincés. Tout ça se passe au moment du fascisme. Hein. Ça n'est pas D'Annunzio non plus, ça n'est pas Moravia. Il est un peu entre deux eaux, il est un peu entre deux mondes et un peu entre deux statuts. C'est donc un personnage méconnu de la littérature européenne. Et là, il surgit comme journaliste, comme chroniqueur. Et l'écrivain se fait le chroniqueur de son temps. Et je trouve que c'est un des charmes de ce livre, de découvrir quelqu'un donc, qui a pu connaître les écrivains et les situations de l'entre-deux-guerres et qui, tout d'un coup, va s'intéresser à l'Italie et à l'Europe des années 50 avec une grande modernité. Et au lieu d'être un homme arrêté dans sa tête à une époque et à des problématiques, il s'intéresse absolument à tout. Mais il a aussi le don des situations. Ses chroniques sont quasiment théâtrales. Elles sont souvent drôles, méchantes. Il y croise beaucoup de monde. Il y a une scène avec Paul Reynaud, par exemple, et Marlène Dietrich, qui est une bonne grand-mère et qui raconte, je crois qu'elle tricote des choses pour ses petits-enfants.
Ah non, elle lave les couches.
Ou elle lave les couches de ses petits-enfants. Vous avez meilleure mémoire que moi.
Elle s'en fait transporter par avion quand elle est à Berlin.
Voilà.
On lui envoie tous les jours des couches sales pour qu'elle puisse les laver à la main. C'est extraordinaire, quoi.
Malaparte raconte qu'il a connu.
On est niveau taxe carbone, c'est pas formidable.
Mais... Il a connu un prélat qui allait devenir Pionze et qui était un amateur d'escrime et qu'il a failli croiser le fer avec, il s'appelait Ratti, c'était donc le futur Pionze, et qu'au dernier moment...
Au Saint-Siège.
Au Saint-Siège, et que Ratti lui a dit non, on va pas le faire. Ah bon, pourquoi, demande Malaparte, parce que tu serais capable d'aller te vanter de t'être battu à l'épée
avec le pape. Le Saint-Père, je crois.
Avec le Saint-Père, voilà. Donc des véritables scènes, un jugement sur l'Europe de la reconstruction, des Trente Glorieuses, un jugement sur l'évolution de la société italienne. Quand on songe là au livre d'Elena Ferrante qui pose la question de la condition féminine et de l'évolution de la condition féminine à partir d'un modèle très très patriarcal jusqu'à une émancipation. Malaparte est d'une grande modernité, il prend la défense des femmes dans des situations effectivement objectivement injustes. C'est un vrai chroniqueur au sens propre du mot. On abandonne le romancier, l'aventurier. Il a un point de vue, il sait raconter des histoires. À la fin, il y a toujours une morale, il y a un point. Il a un sens comique que je ne soupçonnais pas chez l'auteur de Caput et de la Peau, où il y avait souvent des scènes relatives à la guerre qui étaient assez horribles. Il raconte des scènes dans les hôtels, c'est la vie quotidienne. Assez drôle, il raconte des menus qui sont à des prix différents selon les langues dans lesquelles est le menu. Donc l'allemand paye plus cher que l'italien, etc. Et lui propose une autre langue que celle qui est dans le menu pour voir ce que va dire l'hôtelier. C'est extraordinaire, ça se lit d'une traite parce que c'est extrêmement varié. Et c'est une véritable découverte sur un don qu'on n'imaginait pas à Malaparte. Et effectivement, ça a eu tellement de succès dans El Tempo, que quand Malaparte a renoncé, on a demandé à un jeune qui montait, qui s'appelait Pasolini, qui écrit quelque chose aussi qui a été passionnant, qui reste passionnant, c'est les écrits corsaires, où il prenait position, comme on le sait, sur beaucoup, beaucoup de sujets.
Ouais, bonne chronique, hein, dites-donc. Vous connaissiez, vous, Daniel Martin, c'est Prise de Bec, c'est le titre original, oui, c'est la traduction littérale du titre de la chronique.
Oui, et le terme en italien est très beau, je suis incapable de le redire.
Si vous l'avez fait en anglais, vous pouvez faire l'italien,
là. Patibecco.
Oui, je trouve que ça a un truc comme ça. Et alors, au début, quand j'ai ouvert ce livre, j'ai trouvé que ça n'avait pas vraiment de style, j'ai trouvé que c'était daté, et en même temps que je me disais ça, je me suis laissé prendre totalement. Ouais. Et j'ai lu ce recueil avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, c'est quelque chose, on peut lire en continu, on peut aller piquer des articles. Et alors, il définit son travail de manière très, très brève, tout à fait à la fin. Il explique que ces Prises de Bec, ce serait comme le répertoire des vices de l'Italie, l'inventaire des hypocrisies, des injustices, des abus de pouvoir, des privilèges, des sept plaies de l'administration publique italienne, bref, de tout ce qui rend agréable et exemplaire la vie italienne.
C'est parfait.
Et c'est bon. Alors évidemment, il ne parle pas que de l'Italie. Il en parle énormément. Par exemple, il ne parle pas de l'Italie. Il relate en particulier une rencontre qu'il a eue avec Staline dans les années 20, qui est assez extraordinaire. Mais pour ce qui concerne l'Italie, il parle de tout ça, c'est-à-dire de tout ce qui ne va pas en Italie. En même temps, on voit qu'il a une grande admiration pour l'Italie. Et il parle aussi de la pauvreté en Italie. Et il appelle dans ses courriers les Italiens à témoigner de leur misère. Et à partir de là, il interpelle les politiques. Et il dit par exemple « Parler aux sourds est la chose la plus triste du monde, mais sont-ils vraiment sourds ces hommes que les circonstances et les arrangements politiques, plus sans doute que la faveur des Italiens, ont porté au pouvoir ? Voilà les questions que je suis obligé de me poser tous les jours à la lecture des lettres qui me parviennent de toutes les régions d'Italie, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il relate et il reflète la misère du peuple italien, et je crois qu'il y en a été fait reproche par un certain nombre d'hommes politiques. Il parle en particulier de la presse qui s'intéresse beaucoup là. On vient de parler de Marlène Dietrich, etc. Il dit, bon, c'est très bien de parler de tout ça, mais en fait, qui se soucie des suicides des chômeurs? Ces suicides de chômeurs sont pourtant essentiels pour essayer de comprendre l'actuelle situation italienne et les différents problèmes qui en découlent, etc. etc. Et on voit qu'en fait, les problématiques qu'il lève dans son époque sont des problématiques qui continuent à exister, parce que tout de suite, on va parler en quatrième titre du suicide des paysans ou des suicides dans des entreprises qui sont en transformation. Et il y a un texte que j'ai trouvé absolument très très étonnant, c'est le texte où il parle du prix des hommes. Avant la guerre, parmi les ouvriers d'Europe, les Polonais étaient ceux qui coûtaient le moins cher. Un ouvrier polonais vivant coûtait la moitié du prix d'un ouvrier italien vivant, le tiers de celui d'un ouvrier français vivant, et ainsi de suite. Quant à un Polonais mort, il ne coûtait que quelques lire le kilo. C'était, vous voyez, cette question à l'intérieur de l'Europe, de l'inégalité des hommes, se posait déjà. Alors, il fait bien la différence entre vivant et mort, parce que mort, c'est une question d'assurance. C'est-à-dire, il fallait répondre à un certain nombre de conditions pour que la veuve ou les orphelins en Pologne reçoivent un peu d'argent. Et il lève comme ça des tas et des tas de questions sur cette époque. Et en gros, ce sont des questions dont on débat toujours. Et puis, il y a des passages qui sont très, très, très drôles. Moi, j'ai éclaté de rire plus d'une fois. Je ne sais pas si on a le temps, mais il y a ce petit passage qui me plaît énormément.
Étienne en donnera un peu, peut-être.
Le duc d'Édimbourg a publiquement démenti avoir susurré à l'oreille de son épouse et son épouse Élisabeth, reine d'Angleterre. Donc on est en 1954. Durant une cérémonie officielle en Australie, courage saucisse. J'espère pour ma part qu'en dépit du démenti, il a bien prononcé ces mots, car au fond, cela fait toujours plaisir à une femme, même si elle est reine, de s'entendre appeler saucisse, etc., etc. Bon, moi, je trouve ça très drôle. Et c'est parsemé de petites choses. Et puis en même temps, ça aussi, c'est en relation avec l'actualité du prince Philippe que je crois a décidé de prendre sa retraite, quelque chose comme ça.
Il est souffrant. Il a fait un petit séjour à l'hôpital, mais il est ressorti. Et a priori, tout va bien. Étienne de Montetti, un mot encore sur ces chroniques.
Oui, c'est vraiment le charme entre l'hier et l'aujourd'hui. Une grande modernité, s'intéressant moins à l'Italie qu'aux Italiens. Il y a énormément de personnages. Donc ça va être la reine d'Angleterre. Il y a une scène très amusante qui lui est racontée et qu'il évoque. C'est l'occupation par les troupes françaises de Constance en 1945. Et les généraux de Lattre, pour punir les populations de leur attitude pendant la guerre, leur demandent de balayer la rue du matin au soir. Et il y a un groupe d'hommes qui refusent de balayer. Et de Lattre les convoque en leur demandant pourquoi ils refusent d'obéir à ses ordres. Et les hommes lui répondent « Parce que sous le régime nazi, nous n'avons rien fait d'autre du matin au soir que de balayer les rues de Constance. Nous sommes les victimes du nazisme. Maintenant que vous nous avez libérés, vous ne pouvez pas prétendre nous traiter comme nous traitait Hitler, disent ces hommes. Vous avez raison, dit le général de Lattre. Le nazisme est tombé, vous êtes à présent des hommes libres. J'admire votre fierté, je voudrais savoir avec qui j'ai l'honneur de parler. » Nous sommes les balayeurs municipaux, répond-il. On est quasiment au théâtre, ce sont des sketchs. Et la variété des sujets, des personnages, des tons aussi abordés. Là, on a plutôt cité des choses amusantes, mais parfois il y a des choses tragiques. Il y a des dénonciations d'injustice sociale. Ça en fait un homme extrêmement présent dans son époque. On a l'impression d'une sorte de Ludion qui s'intéresse à tout et qui n'arrête pas de visiter, de voyager, de s'interroger. Et d'écrire.
Par rapport à l'actualité aussi, c'est-à-dire la vie politique et les scandales, il dit « Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous soucier des scandales. Ne sommes-nous pas partisans d'une libre et saine démocratie ? Or, c'est ainsi, une démocratie n'est libre et saine que grâce aux scandales. L'histoire de toute démocratie antique et moderne est une succession de scandales aussi retentissants que salutaires, etc. etc. » Donc, vous voyez.
Ah, je vois. Prise de bec.
Nous sommes rassurés.
De Curzio Malaparte est publié aux Belles Lettres. C'est une édition dirigée et la traduction également assurée par Stéphanie Laporte. Un dernier mot quand même avant de conclure sur la dernière dispute de Daniel Martin. Heureux, retraité du journal de la montagne. Donc il faut quand même que je vous dise, mon cher Daniel, parce que ça fait quand même 11 ans qu'on fait de la radio ensemble, que ça a été toujours un très grand plaisir, très riche. C'était d'abord dans Tout arrive, puis dans La Dispute, et que vous avez transmis à ce micro beaucoup d'amour pour la littérature, pour les livres, et que peut-être vous reviendrez peut-être vous revoir de temps en temps, mais en tout cas vraiment vous remercier très amicalement pour ces partages. Années.
Si je peux ajouter un mot, je dois vous remercier absolument de votre fidélité.
Je vous en prie.
Je dois être un des plus anciens collaborateurs de cette émission.
C'est fort possible. Ouais. Bon, nous allons regarder les dossiers.
C'est à quoi je suis très sensible.
Merci, cher Daniel. Et avant de conclure, une des dernières arrivées, Justine Dibling, à la dispute, comme quoi ça, c'est le passage de témoin de génération. Le jeu de la dispute, oui, rappel de la question d'hier au soir d'abord, Justine, et sa réponse.
Donc, qui a dit « Je considère comme gaspillé toute une journée où je n'ai pas dansé » et c'était Friedrich Nietzsche.
Ouais, oui, il n'a pas dit que des bêtises. Hein. On fait gagner ce soir l'invitation pour le spectacle « In spite of wishing and wanting » de Wim van de Kuybus. Place à gagner pour la représentation du mercredi 28 juin à 20h30. La Villette, la question.
En plus de ce spectacle, Wim van de Kuybus réalise également des films. Quel est le titre de son film tourné dans la nature corse et les bas-fonds de Bruxelles avec les danseurs de sa compagnie Ultima Vest?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toute toutes les informations sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster ces émissions. Rendez-vous lundi à 21h pour la dernière dispute de la saison consacrée au spectacle vivant. Nous serons avec Fabienne Pascaud et René Solis. Nous parlerons de l'Hôtel du Libre-Échange, Georges Feydeau, mise en scène Isabelle Nantier, la Comédie Française, Richard III de William Shakespeare, mise en scène Thomas Ostermeyer à l'Odéon. On évoquera aussi notamment la compagnie Ilotopie en tournée tout l'été. Et puis Boris Pinault passera lui un coup de fil à Christophe Blandin Estourné, directeur du théâtre de l'Agora, scène nationale d'Evry et de l'Essonne. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.